Donc, contrairement à ce que j'ai annoncé à certaines, je vais quand même continuer. Vous m'entendez là? Bon, alors je vais essayer de faire avec les deux micros là. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Hein. J'ai annoncé à certaines que j'allais plutôt vers la charité fraternelle, mais je sens que le curé d'Ars me dit qu'il faut beaucoup prier aussi. Donc, je pense que ça va vous parler, un enseignement sur la prière et sur Léonie. Je pense que ça va vous parler en étant à Ars, en fait. Je commence par une phrase d'Évangile. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est une pécheresse. » Jésus se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle, elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête, elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais à celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Que fait la pécheresse? Elle se déplace, comme nous, pour le voir. Elle entre dans une attitude de repentance, comme nous essayons de faire, une demande de pardon, exprimée par des gestes humbles, comme celui de marcher. Et tendre, elle lave les pieds de Jésus. Jésus est conscient des péchés qui souillent cette femme. Mais devant ses convives, tous conscients de ce statut de débauché, il ne souligne pas d'abord ses péchés, mais son amour. Cela a toujours été l'attitude de Léonie. Elle se présente à Dieu avec son terrible passé. Vous vous rendez compte un peu ce que c'est pour une femme de penser qu'elle a été la croix de ses parents. Quand j'ai commencé à étudier Léonie, j'ai eu la chance d'aller rencontrer une graphologue, Claudie Soulier, qui avait même fait l'analyse graphologique du pape François pour Paris Match. Vous voyez les références, hein. Et je suis allée la voir, j'ai eu ce contact par une de mes amies qui est graphologue, et je lui ai expliqué que je travaillais sur Léonie, que j'aurais aimé qu'elle analyse l'écriture de Léonie. Et moi, je m'attendais à un truc du style de ce que j'avais lu dans les autres biographies, à savoir que, petite, c'était compliqué pour elle, mais au fur et à mesure des années, son écriture s'assouplit, elle devient tout à fait apaisée et tout va bien. Bon. Alors, elle ne connaissait pas du tout Léonie, ni Thérèse d'ailleurs, c'était très étonnant. Et donc, je l'ai prise avec moi dans la voiture et on allait au Carmel de Lisieux, où il y a des lettres originales de Léonie et de Thérèse. On les garde dans un coffre-fort. Donc la sœur archiviste, sœur Marie Bernard, nous attendait. Elle va au coffre-fort, elle nous sort les lettres, bien protégées par du plastique parce qu'il ne faut pas les toucher. Et on lui soumet les lettres. Alors déjà, elle regarde l'écriture de Thérèse. Alors Thérèse a eu deux écritures. Elle a eu une écriture penchée et une écriture droite. Et elle était contrainte par ses sœurs d'écrire penchée comme ça le faisait à l'époque. Et ça l'a fatiguée. Alors ses sœurs l'ont autorisée à écrire droit. Et quand elle a vu l'écriture droite de Thérèse, Claudie Soulier m'a dit « J'ai jamais vu une écriture aussi équilibrée, qui monte dans les hauteurs, qui s'étale dans la largeur, qui prend toute la place, mais comme il faut, avec un équilibre et une harmonie. » Elle était sidérée, elle ne connaissait pas Thérèse. Donc c'était un compliment extraordinaire. Vous pouvez regarder sur le site des archives du Carmel, il y a des exemplaires de l'écriture de Thérèse, comme ça vous pourrez faire votre propre opinion. Et puis je vais donner l'écriture de Léonie. Alors la plus ancienne lettre de Léonie, elle a 11 ans, elle est en pension, elle écrit des trucs affreux pour une mère. « Maman, je vais tâcher de te faire plaisir, j'étais bien méchante aujourd'hui, mais je ne vais plus l'être. » Enfin, quelque chose qui fend un peu le cœur, quoi. On sent qu'elle est un peu écrasée sous le poids de la culpabilité, d'être pas comme les autres dans ce premier essai de pension, où finalement elle a été, son deuxième d'ailleurs, où elle a été renvoyée. Bon. Alors elle me dit, oui, quand même, cette écriture, elle est assez forte, et puis surtout, elle est écrasée sous le poids de la culpabilité. Ne vous inquiétez pas, et les autres lettres. Alors je lui montre les autres lettres et on fait défiler 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans. Elle me dit, mais votre religieuse, elle est écrasée sous le poids de la culpabilité toute sa vie. Donc pour vous dire que pour Léonie, quand elle se présentait devant Dieu, elle n'avait pas l'impression d'être glorieuse. Elle se disait pas, je viens à toi Seigneur avec tous mes mérites. Non. Elle se disait plutôt, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mon enfance? J'étais un diable à quatre, disait-elle d'elle-même. Donc vous voyez que elle est un peu dans cette posture de la femme repentante qui verse ses parfums sur Jésus. Et Thérèse disait que de verser ses parfums sur Dieu, c'était l'image de donner notre vie à Dieu. Et donc, cet amour, ce désir de Dieu, c'est le fil conducteur de la vie de Léonie. C'est cet amour qui la porte à rechercher Dieu dans la prière. Et comme la femme pécheresse, elle est à ses pieds et elle lui manifeste son amour. Ça, c'est la prière. Et à ce moment si important de sa vie, quand elle entre définitivement à la visitation, Léonie écrit, j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, j'ai dit à ma tendre mère, je ne sortirai d'ici que dans un cercueil. Ensuite, j'ai passé un bon moment devant le Saint-Sacrement, et tout en étant muette en sa présence, je sentais que Jésus me comprenait, et cela suffisait pour goûter une paix profonde. Dans ce chapitre, je vous invite à plonger dans le cœur de la persévérance de Léonie, qui est la prière. Et c'est le cœur de notre cœur, car notre religion est une religion de rencontre. Nous, ce que nous sommes, avec nos péchés, avec nos limites, nos fragilités, et Dieu, qui attend avec impatience de pouvoir déverser sur nous les flots de son amour, qui mendie ce que nous sommes pour pouvoir l'élever jusqu'à lui. Donc, prier, c'est puiser l'espérance en Dieu. Et cette prière, ça s'apprend. Il y a un apprentissage d'une présence. Nous devons recevoir cette présence. Alors, dans la famille Martin, on apprend à prier. Il y a une atmosphère de prière, évidemment, qui est due au fait que, comme je vous l'ai dit ce matin, Louis et Zélie ont eu ce désir de vie religieuse. Donc, ils en gardent un grand goût pour la prière. Et il y a une prière familiale, je dirais même communautaire. L'offrande de la journée, le chapelet, la prière du soir. Zélie ne laissait jamais ses filles toutes seules pour la prière du matin ou du soir. Elle guidait leur prière. Elle leur apprenait à faire leur examen de conscience, en respect évidemment de leur conscience, mais en leur apprenant à trier entre des actes non voulus, qui n'étaient pas des péchés, et des actes où peut-être qu'elles avaient mis une part de leur volonté. Donc ça apprenait à avoir une conscience équilibrée. Pas du tout à être écrasée par le poids de la culpabilité, parce que Léonie, si elle est écrasée, comme je viens de vous le dire, c'est pas à cause de ça, hein, je fais ma parenthèse. Hein. Et donc, ces moments de prière sont comme le tremplin de l'oraison personnelle. Si vous parsemez dans votre journée des moments de prière avec votre famille ou vous-même en offrant votre journée, c'est un tremplin pour l'oraison personnelle. La petite Thérèse raconte dans ses souvenirs comment elle faisait oraison sans le savoir. Elle était derrière son lit, et puis elle pensait à Dieu, à l'éternité, et dans le silence. Et après, elle s'est dit, mais en fait, c'était de l'oraison, ce que je faisais. Mais elle ne savait pas. Et quant à Léonie, ce qui m'a bouleversée, c'est que quand j'ai commencé à chercher des documents sur elle dans les mémoires de ses sœurs, j'ai trouvé pratiquement qu'un seul témoignage sur elle de Céline, enfin un témoignage important. C'était quand Thérèse était rentrée au Carmel, après les deux aînés, et elle se retrouve toute seule avec leur père, donc Céline, Léonie et Monsieur Martin. Et Céline écrit sur sa sœur. Elle était bien bonne, douce et humble. Elle ne cherchait point à paraître et me laissait la joie de gouverner la maison, dit avec un peu d'ironie, hein, bien que je fusse plus jeune qu'elle, de 6 ans. D'ailleurs, les soins du ménage n'étaient pas dans ses aptitudes. Paf. Privée toute seule de sa petite compagne Marie-Hélène, qui aurait été de son âge. Elle avait depuis, comme la prophétesse Anne, vécu dans le veuvage, ne quittant point sa chambre et servant Dieu nuit et jour dans la solitude et la prière. Cet amour de la retraite ne l'empêcha pas de s'adonner aux œuvres de charité. Elle allait ensevelir les morts chez les familles pauvres du voisinage. Donc vous voyez deux choses, trois choses. Elle est blessée encore de la perte de sa sœur à 24 ans. Qu'elle a perdu à 6 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie. Et quand elle sort de là, alors elle va enterrer des morts, ce qui est quand même un peu particulier dans un contexte de perte de sa sœur, mais qui est une œuvre de miséricorde aussi, hein. Donc, elle traverse un moment difficile de son existence, où rien n'est encore guéri chez elle, elle prie. Donc, il faut accepter nous-mêmes de pouvoir nous présenter à Dieu tel que nous sommes, avec nos blessures, nos écrasements, les écrasements de notre être, en se disant, je prie, je suis là, Seigneur, je suis là, j'attends. Et dans ce que nous sommes, qu'est-ce qu'est Léonie ? Alors, je ne vais pas m'étendre plus dessus, mais vous pensez bien que quand on rentre à la visitation, comme elle a fait, elle n'a pas passé la porte et laissé tous ses défauts de l'autre côté, ni ses difficultés, ni ses fragilités. Elle est restée comme elle était. Et donc, il faut des grâces, des armes pour avancer. Dans la vie religieuse, c'est la prière. Quand on est prêtre, je pense que c'est le sacerdoce dans lequel on doit beaucoup puiser. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. J'ai cherché dans les notes de Léonie des passages sur le curé d'Ars. Notamment, elle a noté le sacerdoce et l'écoulement du cœur de Jésus, du curé d'Ars. Elle avait ça dans ses notes. Elle aimait beaucoup les prêtres. Je ferme ma parenthèse. Donc, Léonie garde ses fragilités. Elle en est consciente. Elle compose même une prière au début de sa vie religieuse où elle dit « Mon Dieu, faites en moi ce que vous voulez afin d'être bonne et charitable jusqu'à l'excès pour pratiquer à l'exemple de ma Thérèse votre commandement nouveau. Vous seul, agissez en moi et par moi. Je vous en supplie, dans cette difficile entreprise, quatrième entrée dans un monastère, car j'ai tout lieu de craindre de mon extrême faiblesse qui m'a joué tant de tours. Mon Jésus, ma confiance est en vous, et d'autant plus grande que je me sens si petite et la misère même. » On retrouve cette femme pécheresse. Elle est fragile, elle dit elle-même qu'elle a une santé des plus chancelantes. Elle est très mince, peu musclée, elle est très sensible au froid, elle a souvent des maux de tête, des rhumes, des bronchites, des indigestions. Elle est obligée d'avoir un régime particulier assez rapidement après son entrée au monastère. Vers 55 ans, elle a perdu toutes ses dents quand même, hein. À l'époque, c'était tôt, hein. Donc ça veut dire qu'elle a un régime spécial, puisqu'elle ne peut pas mâcher, vous voyez ? Et puis, elle a souvent des bronchites, et puis son eczéma, qui revient souvent. Et qui dit eczéma, ça veut dire que parfois la nuit, elle ne dort pas du tout, parce qu'elle lutte contre les démangeaisons. Elle dit « Il me revêt d'un cilice, des pieds à la tête, par des démangeaisons, surtout la nuit, qui m'empêchent de fermer l'œil. Si j'ai le malheur de me soulager, ce sont de vraies brûlures. » Et donc, pendant la journée, c'est pas facile de prier, finalement. Et puis les séquelles de son enfance, ce que je viens de vous expliquer, cette culpabilité d'avoir été une mauvaise fille, qu'elle porte malgré elle, même si elle sait que sa mère a bien vu les choses. Et donc finalement, elle dit qu'elle a un penchant à la tristesse. Elle écrit à sa sœur « Je suis souvent un peu mélancolique, c'est le fond de mon caractère. Il ne faut pas y faire attention. » Et puis, elle est hypersensible. Et quand on est hypersensible, elle dit « J'ai le cœur chaud. » Mais ça veut dire aussi que, quand quelqu'un se réjouit, elle est capable de se réjouir, mais d'être dans une grande allégresse, mais quand elle sait, par exemple, que ses sœurs peuvent avoir froid pendant l'hiver, elle est capable de pleurer deux jours parce qu'elle sait que ses sœurs ont froid. Vous voyez ? Donc, ça demande une gestion interne de ses émotions qui demande une énergie, mais considérable, et qu'on ne voit pas nous-mêmes. Mais face à Dieu, après, il faut se présenter tel qu'on est. Et pourtant, à la fin de sa vie, comme je vous l'ai dit ce matin, elle dit « Je vivais dans une terreur perpétuelle à cause de Louise, mais c'est un miracle qu'il ne m'en soit rien resté. » C'est-à-dire qu'il ne lui reste pas sa terreur intérieure. Et pourtant, elle n'a pas eu un suivi psychologique comme aujourd'hui. Elle a eu des petits progrès, des petits décentrements successifs jusqu'à arriver à sa paix intérieure. Et donc, cette pratique des vertus avec sa petite nature, elle est héroïque. Elle est héroïque. Et donc, où a-t-elle puisé cette force de se relever, de se recréer dans la prière ? Dans la prière. C'est pour ça que j'insiste aujourd'hui auprès de vous sur cette prière qui est l'endroit où nous puisons notre énergie vitale. C'est le cœur de notre cœur. Et nous, que sommes-nous, nous ? Ben, nous sommes aussi imparfaits. Enfin, peut-être pas vous, mais moi, je suis imparfaite. Peut-être qu'on a une meilleure santé. Peut-être qu'on a un équilibre intérieur plus stable. Peut-être qu'on a des souvenirs d'enfance moins douloureux. Mais comment nous présentons-nous devant Dieu dans la prière ? Avec la joie légitime d'avoir bien fait ? Avec une forme satisfaisante ? qui nous permet de pratiquer le bien avec facilité. Nous avons tous le désir, si nous aimons Dieu, de faire sa volonté, d'appliquer ses commandements pour ressembler au Christ. Mais cependant, comme la femme pécheresse, personne ne se présente devant Dieu sans péché. Thérèse dit « Toutes nos œuvres ont des taches à tes yeux, Seigneur ». Et donc nous pouvons, comme le pharisien, parce que nous sommes tous pharisiens, non seulement cacher à Dieu, mais à nous-mêmes, en fait, nos défauts, nos péchés, nos habitudes pécaminuses, nos vices. Et en fait, c'est un peu comme quand on invite quelqu'un, je ne sais pas si ça vous avez déjà fait ça, votre maison est un peu en bazar, et puis il y a quelqu'un qui s'invite au dernier moment. Et là, vous dites « Oh, panique !» Vous attrapez tout ce qui traîne dans l'entrée et vous le jetez dans le KGB d'à côté et vous fermez la porte à clé. Et là, la personne arrive, oui, bien sûr, entrez, un petit thé, un petit café, bien sûr, etc. Et à ce moment-là, la personne dit, tiens, la dernière fois, j'ai oublié un truc dans le KGB, est-ce que je peux reprendre ? Ah ben non, 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 ça ne va pas être possible, je vais y aller moi-même. Hein. Et en fait, avec Jésus, on fait un peu pareil, en fait, avec le Seigneur. On se présente devant lui dans la prière. Et puis on a mis tout ce qui nous encombrait un peu dans le KGB, on a bien fermé la porte, on a dit « Seigneur, je suis devant toi comme une âme en prière. » Et le KGB nous dit le Seigneur « Non, non, pas ça, pas ça. C'est en désordre ça. » Voilà, donc nous ne sommes pas des bons élèves et nous avons heureusement la confession pour avancer et puis être en vérité par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Donc, comme Jésus, nous prions, « Mon Jésus, ma confiance en vous est d'autant plus grande que je me sens si petite et la misère même. Pas besoin de masque avec lui, il nous voit tel que nous sommes, il recherche notre intimité dans une prière simple et confiante et il veut nous guérir, c'est nous acceptons qu'il le fasse. » Je ne dis pas cette guérison directe, comme je disais ce matin de la conversion de Noël. Non, parce que pour Léonie, il l'a guérie progressivement, tout au long de sa vie, au fur et à mesure qu'elle lui ouvrait toutes les pièces de sa maison. Qu'il attend. Je frappe à la porte et j'attends. Et nous, est-ce que nous sommes prêts à nous présenter à Dieu sans fard, tel que nous sommes? Ou nous sommes prêts à nous laisser aimer, tel que nous sommes, à nous laisser transformer par lui? C'est une question que nous pouvons nous poser. Alors, en deuxième point, je voulais justement savoir arriver au but, la rencontre avec Dieu. Pour rencontrer Dieu, il faut le désirer. Thérèse dit que c'est un élan vers Dieu, la prière, mais il faut le désirer. Et Léonie, en 1887, lors de son premier essai à la Visitation, écrit à Thérèse « Je veux te confier un des plus grands désirs de mon âme, qui est l'union intime avec Jésus. Car qui a Jésus a tout. C'est le trésor des trésors. En lui seul, on trouve le bonheur. Parce que notre cœur est uniquement fait pour lui, lui seul peut le remplir pleinement. Il est trop grand pour le monde. » C'est important de se répéter ça au moment où nous vivons, par exemple, des trahisons avec nos amis, avec notre famille, de se dire, en fait, j'attends trop de lui. Peut-être que le Seigneur seul peut me combler parfaitement mon cœur. Quel que soit notre état de vie, Dieu est notre unique amour, en fait. C'est l'amour de notre amour, c'est le fil directeur de notre vie. Nous sommes là sur terre, mais en fait, il y a un fil qui nous conduit au ciel. Et nous devons toujours avoir cette pensée de Dieu en nous, de se dire, c'est provisoire tout ça. J'y habite, je fais attention aux autres, mais c'est provisoire. Et le seul qui peut combler mon cœur, c'est Dieu. Et nous avons un modèle de cette intimité avec Dieu, c'est Jésus. Moi, ce qui m'a toujours étonnée, c'est que Jésus, il est Dieu et homme, et il éprouve le besoin de prier. Enfin, je ne comprends pas. Il a toujours Dieu en lui. Mais pourquoi il prie? Vous ne trouvez pas? Eh bien, pourtant, il va prier sur les collines durant la nuit. Il a besoin de ça. Pourquoi? Parce que quand on aime, on rencontre la personne qu'on aime et qui seul peut combler notre cœur. La prière est le lieu où Dieu nous construit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut dire « je décide quelque chose, je veux et c'est. » Vous comprenez? Nous voulons des choses, mais notre volonté ne suit pas, et la vie ne suit pas. Et la seule personne en qui ces deux aspects sont rejoints, c'est en Jésus. Jésus veut et il fait. Jésus dit et il est. Parce que c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et nous-mêmes, nous devons reconnecter ces deux aspects de notre vie, notre désir et le fait de faire en Dieu, dans la prière. Il n'y a que ça. qui fait qu'on va devenir une humanité de surcroît, comme dit Élisabeth de la Trinité. Donc comment apprendre à prier ? Eh bien, ce qui est très étonnant, c'est que Léonie a eu toutes sortes de moments vis-à-vis de Dieu. Elle a eu des moments où elle était heureuse, elle a été en extase, ça lui est arrivé, assez peu finalement, et puis des moments où c'était la sécheresse totale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on parlait avec un groupe de couples, et on parlait de la vieillesse. Et je leur disais, mais c'est incroyable, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont beaucoup de défauts. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, ce n'est pas facile de se corriger une fois arrivé à la vieillesse. Il faut faire le travail avant. Alors, je ne dis pas ça, qu'on ne peut pas, hein, mais il paraît que c'est plus difficile pendant qu'on y est. Parce que, pourquoi ? Parce que notre corps est plus pesant, parce que notre vie est plus difficile. On est au ralenti, enfin, je veux dire, on n'a pas les mêmes capacités qu'à 20 ans. Donc, quand nous prions, nous nous présentons à Dieu tel que nous sommes, limités, entravés, avec notre corps malade, fatigué, pas comme si nous étions en pleine forme, mais dans un lieu confortable. Alors, je vous lis un passage d'une lettre de Léonie qui raconte justement ça pendant une de ses retraites. Le jour de la fête de notre sœur Marguerite Marie, parce que Marguerite Marie est une fille d'Andine, comme Léonie, j'ai été prise par notre Seigneur, exposée dans son sacrement d'amour. Si tu savais quel délicieux moment j'ai passé à ses pieds. Jésus ne m'a rien dit, je ne lui ai rien dit non plus, mais encore une fois, j'étais prise, et si bien prise, que j'avais perdu toute notion de temps véritable, avant-goût du ciel, qu'aucune langue humaine ne saurait exprimer. Mais alors, quelle chute, quand l'âme reprend ses sens, pour revenir à ses déridictions, à ses impuissances habituelles. C'est pourtant tout ce qu'il y a de meilleur pour l'exil, et de plus solide, après une aussi signalée faveur, qui fortifie grandement les âmes, que Jésus daigne ainsi gratifier. Et à 70 ans, elle écrit « Ma retraite est finie, on est bien content quand c'est fait. Car cela est laborieux et fatigant, surtout quand c'est mon cas, on la passe en dérédiction. Mais ne voulant et ne cherchant que la volonté du bon Dieu, on ne peut pas être dans l'illusion, ce que je crains toujours. » Comme dit saint François de Sales, elle cherche à préférer le Dieu des consolations aux consolations de Dieu, parce que c'est ça le fond de la prière. Elle accueille donc avec grande joie les moments où elle sent la présence de Dieu et humilité la sécheresse. Elle explique ainsi l'enseignement de Thérèse qui dit « Je redouble de tendresse quand tu te dérobes à ma foi ». Finalement, quelle est la prière la plus fructueuse ? Et ça, c'est pour vous encourager et pour m'encourager à la fidélité. Ce n'est pas celle où nous sentons les onctions célestes, parce que notre prière finira par se dissoudre d'elle-même dans cette recherche, non de Dieu, mais de ses consolations. Mais dans les moments de fidélité, où nous prions sans rien attendre, en sachant, en ayant cette foi, cette espérance que Jésus agit en nous, parce qu'il sait mieux que nous. Alors, comment faire pour prier ? Parce que, en fait, souvent, on dit, « je prie, je fais oraison, bon. » Et on n'a plus de méthode aujourd'hui. Moi, je sais que quand j'ai commencé à faire oraison, je ne dis pas que je suis un modèle du tout dans ce domaine, hein, je précise. Mais quand j'ai voulu faire oraison, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'ai pris un texte, j'ai commencé, mais je ne savais pas parce que ça ne s'apprend plus aujourd'hui. Donc, je me suis dit que peut-être ça vous aiderait, parce que moi, ça m'a aidé. Alors, c'est indicatif. Quelle est la méthode de Léonie ? C'est indicatif, hein ? On adapte chacune pour sa façon, avec son père spirituel, si on en a un. Je ne vous donne pas d'ordre, hein. Voyez, ne le prenez pas comme quelque chose d'impératif, parce que ça peut dégoûter même. Hein. Donc, le but, c'est quoi ? C'est de faire un rituel de prière. Vous savez bien que nous, les femmes, on a des rituels. Il y en a plein sur Instagram et partout. Alors, le rituel du matin, le rituel du soir, le rituel du ménage, le rituel d'un dîner, etc., etc. Et il y a un rituel de prière. Et il faut chacune se faire, ou chacun se faire, un rituel de prière. Et donc, j'ai regardé comment elle faisait. Le matin, elle commence par tourner son cœur vers Dieu. C'est son premier moment. « Vous m'appellerez au Dieu et je vous répondrai », suggère comme phrase saint François de Sales. Et après, elle va directement prier à la chapelle. Et en fait, dans ses écrits, elle explique que ce qui est important avant de prier, et d'ailleurs on peut l'appliquer au fait d'aller à la messe, c'est d'entrer dans un recueillement intérieur. Sainte Thérèse de Lisieux, elle disait surtout, quand vous allez au cœur pour la messe, pour un office, ne commencez pas à dire à une de vos sœurs quelque chose d'important, parce qu'après, pendant toute la messe, elle va penser à ça. Si vous allez à la messe et que vous dites à votre mari, oh là là, mais tu te rappelles pas, il fallait qu'on invite machin et on a complètement oublié. Alors lui, il va se mettre à réfléchir pendant toute la messe à ça et il va être moins disponible à Dieu. Donc, faire attention à préparer par un recueillement les temps de prière et de messe, d'office, voilà. Et elle aussi, je vais aller vite parce que il faut pas que je vous prenne trop longtemps, 26 minutes, ça va. Se mettre en présence de Dieu. Il faut recevoir la présence de Dieu. Si on prie Dieu et qu'on ne se met pas en présence de Dieu, on ne peut pas recevoir sa présence. Je demande pardon pour ceux qui savent tout ça déjà. Hein. Vraiment, pardon humblement. Hein. Ben, moi, je redécouvre des choses. Donc, se mettre en présence de Dieu. Saint François de Sales, alors je prends ça dans sa méthode introduction, dans l'introduction à la vie dévote, qu'il demande à ses visitandines de suivre. Vous voyez, donc les visitandines, elles relisent introduction à la vie dévote. Se mettre en présence de Dieu, tenez cette règle pour intangible, vous verrez comme elle est profitable, dit-il. Dieu est dans notre cœur, Dieu est là, il y a plusieurs façons de recevoir sa présence, en l'imaginant à côté de nous, en l'imaginant là dans la pièce, dans le Saint-Sacrement si on a la chance d'aller dans l'église, et puis demander l'aide du Saint-Esprit, demander au Saint-Esprit de venir nous aider à prier, parce que c'est lui qui prie en nous en fait. Alors, on a besoin d'un cadre. Pourquoi on a besoin d'un cadre? Parce que la plupart du temps, notre oraison, elle est sèche. Enfin, vous avez peut-être la chance d'avoir une oraison très nourrie, enfin, très plein d'onction d'un bout à l'autre de votre vie. Mais ça peut être dangereux, ça. Parce que moi, je me souviens d'un ami qui qui s'est converti à l'Emmanuel. Elle me disait, mais tu comprends, Madeleine, ils disent tous, le Seigneur vient me bénir par ses flots de tendresse, je ressens beaucoup d'onction dans mon cœur, et moi, je ressens rien. Je crois que j'ai perdu la foi. Et donc, le danger, il est là, de se dire, merci Seigneur pour les onctions, merci pour ce que tu es, mais si je te ressens pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas là. D'où l'importance d'un cadre, de se dire, ok, j'ai décidé de prier tous les jours 10 minutes. Je commence par recevoir la présence, par invoquer l'Esprit Saint, et après je prends un petit texte. Pourquoi un petit texte? Parce que sinon ça finit en liste de courses. Ou en menu. Voilà, c'est comme ça, on est comme ça. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et donc, elle prépare des points de méditation même. La veille, elle a commencé à lire son texte pour le lendemain, pour commencer à manduquer dans sa tête. Et quand elle arrive à l'oraison, elle plonge dans la vie de Jésus. Alors pour nous, le plus simple, évidemment, il y a des livres. Je ne suis pas là pour vous conseiller des livres. Vous en aurez partout dans les librairies, des livres sur lesquels appuyer sa prière. Mais il y a l'Évangile, tout simplement. Tout simplement, aujourd'hui, on a Prions en Église, Magnificat, tous ces livres qui sont merveilleux et qui nous permettent d'avoir l'Évangile tous les jours pour s'appuyer dessus, imaginer la vie de Jésus, voir quelles sont les connexions entre la vie de Jésus et nous. Parce que je vous ai dit qu'en fait, il y a ce que Dieu veut de nous et ce que nous sommes. Et le point de jonction, c'est la prière. Donc, nous laisser irriguer par lui et savoir quelle est la petite conversion que Dieu attend de moi aujourd'hui. Ça peut être un pardon, un geste de tendresse, une décision de lutter contre une mauvaise habitude ou juste une action de grâce qui trouvera un écho dans notre journée. L'idée, c'est de progresser, de devenir meilleur. Parce que oui, nous avons quand même une part de notre volonté dans tout ça. C'est pas automatique, on n'est pas chez les hindous où... moi j'ai une amie, elle fait de la méditation transcendantale, elle me dit, mais moi j'ai rien à faire. Tout se fait naturellement, je médite, et après, tout va mieux dans mon caractère. Alors je peux vous dire que je la connais, non, ça va pas mieux du tout. Hein. Non, elle est tout le temps en train de disputer avec son mari, ses enfants, c'est horrible. Enfin, j'ai envie de lui dire, fais un petit effort peut-être, hein. Fais la jonction, parce que la jonction elle est là. Nous sommes une religion d'incarnation. Incarnation, ça veut dire on change, on essaye de changer grâce à Dieu. Donc, à la fin de la prière... un bouquet spirituel, une pensée, une phrase qui va faire un écho toute la journée en notre âme, et puis une résolution, et puis on remercie Dieu, tout simplement. Enfin, vous trouverez cette méthode plus détaillée dans l'introduction à la vie dévote. Et saint François précise bien que les sentiments d'amour que susciterait en vous le Saint-Esprit doivent toujours prévaloir. Si, par exemple, vous êtes en train de prier sur la vie de Jésus et que tout à coup, vous êtes avec lui au temple, avec les marchands, et que vraiment, vous, Vous vivez la scène, ben évidemment, faut laisser son cœur vivre la scène. C'est le but, c'est pas de se contraindre, mais de se canaliser pour permettre à Dieu de se manifester à Dieu, à nous, pardon. Donc Léonie, elle applique cette méthode, qui est d'abord un dialogue intime avec Dieu. Hein. Et puis Léonie, elle prie avec l'Église, elle est religieuse, donc elle fait tous les offices. Et puis, elle fait aussi, évidemment, la messe tous les jours. Alors, elle se confessait deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Il y avait la grande confession, la petite confession. Alors, la grande confession faisait un examen de conscience. Et la petite, c'est pour pouvoir entretenir un état de grâce extrême parce qu'elle communiait tous les jours. On est entre 1900 et 1940. Donc, il y a l'idée quand même, qui n'est pas quand même totalement surannée aujourd'hui, de préparer son cœur à recevoir Jésus. Voilà. Mais elles sont religieuses, elles ont la chance d'avoir un... Enfin, personne ne trouve un prêtre deux fois par semaine aujourd'hui. Hein, si, donc, ne surmenons pas nos pauvres prêtres avec ça. Il ne s'agit pas de suivre son... Elle pouvait, parce que c'était le cadre... Mais c'est pour vous dire ce qu'elle faisait. C'est pas pour vous dire « faites pareil », évidemment. Et donc... mais ce qui est très intéressant, c'est que elle vit profondément la communion en étant connectée avec cette idée de travailler sur elle. Et puis, entrer dans la vie du Christ avec le cycle liturgique, c'est quelque chose qu'on oublie aujourd'hui. Nous devons vivre avec les pulsations de l'Église. Léonie, par exemple, à Noël, elle était ravie de voir l'enfant Jésus. C'était vraiment sa grande joie. Qu'il est doux de nous retrouver près du berceau du divin tout-petit. Peut-on trouver rien de plus éloquent que cette chair du Fils incarné qui ne dit qu'un seul mot, « amour ». Non par sa langue, volontairement restée muette, mais par son ineffable petitesse et anéantissement. Un cycle liturgique, c'est entrer dans l'épaisseur de la vie du Christ année après année. C'est laisser Jésus s'incarner dans notre vie plus profondément année après année. Alors, je ne peux pas vous détailler tout ce qu'elle faisait, parce qu'elle faisait une neuvaine avant chaque grande fête. Il y avait une préparation, on vivait au rythme de l'Église, qui est comme une mère nourricière pour nous. Et il nous faut apprendre, nous, je parle spécialement aux laïcs, à vivre perfusé avec l'Église. C'est très important, parce qu'il y a sa vie qui passe en nous. Et puis, évidemment, elle aimait beaucoup les saints, dont le saint curé d'Ars, qu'elle aime beaucoup. Mais nous aussi, nous pouvons nous constituer ce qu'on peut appeler une brigade céleste. Nos amis du ciel, avoir une petite liste et se dire, voilà, quelle est ma brigade céleste qui m'accompagne, le noter, tout ça, c'est des choses qui nous permettent d'être branchés sur l'Église. Comme ça, nous ne vivons pas comme des citoyens de la terre ordinaire, mais comme des habitants du ciel avec lesquels le dialogue a déjà commencé. Et pour finir cette partie, je vous dirais que Léonie écrivait cela, que j'aime beaucoup, sur la prière. Elle parle à mère Agnès, à sa grande sœur Pauline. « Que je savoure tes paroles, le bon Dieu travaille en nous, il n'est pas nécessaire de le voir et de le sentir. Heureusement, car je suis de plus en plus une petite bûche, je demande à Jésus d'y mettre le feu et à l'esprit d'amour de l'activer, pour que leur toute petite, qui ne veut qu'aimer, saura que dire, et faire en toutes circonstances, parce qu'elle est trop petite, et cette petitesse fait tout son bonheur et toute sa force. » Et je voudrais terminer par là, j'ai encore 10 minutes, Jésus hostie. Et c'est pour ça que je vous ai mené jusque-là, parce que c'est vraiment un point qui est tellement commun entre le curé d'Ars et Léonie, cet amour de Jésus hostie. Elle m'a appris beaucoup, Léonie, parce que le sommet de la prière, évidemment, c'est Jésus sur la croix. Jésus a offert sa vie pour nous, et ce don de sa vie, nous le retrouvons à la messe, qui est le sacrifice non sanglant de Jésus. C'est comme si on écartait le temps et qu'on se retrouvait au pied de la croix par la messe. Donc c'est quelque chose qui est incommensurable et ineffable. Et ce que répète en boucle le curé d'Ars, qui est émerveillé par ce mystère. Mais Léonie aussi était émerveillée. Elle avait un amour de l'Eucharistie que tout le monde remarquait. Alors, à la visitation de Caen, vous savez, il y a deux... C'est comme un L, les chapelles des visitandines. Il y a l'église, comme ici. Et puis, après, il y a comme une L avec la grille qui sépare, de clôture qui sépare avec les visitandines. Et les visitandines étaient de l'autre côté. Donc, elles n'avaient pas le tabernacle de leur côté. Elles avaient le tabernacle là. Et donc Léonie, quand elle priait, ben, elle voyait le tabernacle à travers la grille. Et je trouve que pour une épouse du Christ, c'est quand même pas si facile que ça, finalement. Hein. Et un jour, elle est partie à Bayeux pour témoigner au procès de sa sœur. Et là, il y avait Jésus qui était exposé dans l'hostie, dans le tabernacle, qui était à l'endroit où elle priait. Et en plus, c'était derrière une porte vitrée. Donc, elle le voyait. Et les sœurs se sont souvenues, des années après, de son attitude. Les sœurs gardent un souvenir très vivant des longs moments que Léonie passait à genoux devant le tabernacle, dont la porte à ce moment était vitrée, laissant voir la Sainte Hostie. Elle semblait vouloir remplir sa vue de ce qu'elle ne pouvait voir dans son monastère. Et Léonie disait que sa prière préférée était la messe. « Je me traînerai à genoux plutôt que de manquer une communion. » Elle dit « Dans ce cœur à cœur avec Jésus, quel débordement de tendresse. C'est là qu'on se paye de l'amour. » D'autant plus pur qu'il est tout spirituel. Elle communiait donc, comme je vous l'ai dit, pratiquement tous les jours. Et elle dit encore sur la communion, et je trouve ça très beau, « Les joies de l'exil, même les plus pures, elles sont et ne peuvent être que mélangées de tristesse, souvent bien amères. Autrement, on se croirait en paradis. Notre ciel, ici-bas, c'est Jésus hostie, dans la foi. » Sans doute, mais réel, en attendant le face-à-face éternel auprès de notre unique bien-aimé dans son cœur sacré. Alors, elle écrivait souvent à ses sœurs, et ses sœurs avaient des fêtes, et pour ces fêtes, elle ne savait pas quoi offrir, parce qu'elle est religieuse et qu'elle a fait un vœu de pauvreté. Et c'est Thérèse elle-même qui lui a donné l'idée de savoir quoi offrir à ses frères, à ses sœurs, pardon, pour ses fêtes. Pour leur fête. Thérèse lui écrit « Ma chère Léonie, ta toute petite sœur ne peut s'empêcher de venir te dire aussi combien elle t'aime et elle pense à toi, surtout en ce jour de ta fête. Je n'ai rien à t'offrir, pas même une image, mais je me trompe. Je t'offrirai demain la divine réalité, Jésus aussi, ton époux et le mien. Ma petite sœur chérie, je ne puis tout te dire, ce que mon cœur referme de pensées profondes qui se rapportent à toi. La seule chose que je veux te répéter est celle-ci. Je t'aime mille fois plus tendrement que s'aiment des sœurs ordinaires, puisque je puis t'aimer avec le cœur de notre céleste époux. Quand on est religieuse, Jésus est toute notre richesse, on le comprend, et nous, quelle est notre vraie raison de vivre notre richesse? Que pouvons-nous vraiment offrir? Un cadeau que ni les vers ni les mythes ne rongent, sinon Jésus donné pour nous sur la croix. » Et Léonie sera toujours en avance pour les fêtes de ses sœurs, elle leur offre une ou plusieurs communions. Alors je vous cite par exemple, en 1921, pour la fête de Mère Agnès. « Si le froid ne me permet pas de t'offrir pour ta fête la plus petite fleurette, on est en janvier, du moins je puis te donner la fleur des fleurs, celui qui les a toutes créées. Mon bouquet est déjà commencé, il se compose de 5 communions. Ma petite maman, comme je ne saurais et je pourrai jamais te vaincre par moi-même en générosité, alors je m'adresse au souverain riche et à ses saints, et ainsi je pense payer toutes mes dettes. » Et ça va plus loin, notre communion avec les autres. Parce que si Jésus est notre désiré, celui en qui nous puisons tout notre amour et qui nourrit notre amour pour lui, alors en nous, nous trouvons la source de nos affections, de notre amour fraternel. Et cette source, elle est infinie, car il est Dieu. Et épuré, c'est-à-dire débarrassé de tout égoïsme, parce que sur terre on aime, mais avec nos cœurs limités. Et en lui seul est la vraie communion avec nos maris, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos proches. Il n'y a qu'en Jésus qu'on les aime vraiment. Et c'est ce qu'exprime Léonie lors de la fête de la Transfiguration à ses sœurs. Écoutez ces paroles merveilleuses. « Quelle belle fête que la Transfiguration sur la terre. Nous possédons réellement notre bien-aimé caché sous la blanche hostie eucharistique, en attendant le face-à-face éternel. C'est dans ce rendez-vous d'amour que nous nous aimons, à nous retrouver chaque jour dans nos communions, surtout pour nos fêtes et nos anniversaires. Quelle union ineffable! Nous nous retrouvons en Jésus, c'est une vraie fusion. Je ne sais et ne puis plus demander que la grâce de vivre et de mourir dans cet acte du pur amour. Tout est là, le reste me fatigue et m'est indifférent. Et je suis sûre d'être parfaitement comprise de vous, petite sœur, puisque nos cœurs et nos âmes sont pareils et moulés dans le cœur de notre Jésus. Et cet amour qui nous unit, nous, chrétiens, pensons-y lorsque nous communions ou que nous ne communions pas. Parce que justement, dans la monastère de Léonie, quand une sœur ne peut pas communier quand elle est malade, par exemple, et bien la supérieure va communier et vient s'agenouiller à côté de la sœur malade pour faire son action de grâce. Elle porte en elle Jésus. Et ça, c'est très beau de penser que si, par exemple, un jour, ce n'est pas possible pour nous de communier, nous allons à la messe, nous pouvons offrir les communions de nos frères et sœurs présents en offrande agréable à Dieu, pour Dieu et pour eux. Plus profondément, nous pouvons songer à notre vocation de catholique universelle de répandre le règne de Jésus sur terre. Il y a un prédicateur qui disait à Léonie que la sainte communion fréquente quotidienne, c'est le moyen humain de ramener les âmes à Dieu. Jésus n'a pas voulu seulement être notre but, notre terme, il s'est fait notre moyen. Et son moyen, c'est l'extension de l'incarnation par son Eucharistie. Écoutez bien, l'extension de son incarnation par l'Eucharistie. Quand nous communions, nous répandons, nous enracinons l'incarnation de Jésus sur terre. C'est pourquoi il faut faire tous ces efforts pour multiplier ces communions, dit-il. Et Léonie rend grâce pour ces communions. Elle dit, il y a 54 ans que j'ai fait ma première communion. Que de communions, elles sont innombrables et que de grâces accumulées. Donc, dans cette étape de notre pèlerinage, je vous ai présenté l'enfance de Léonie qui aurait pu empêcher toute vocation, qui aurait pu empêcher toute progression spirituelle, parce que Léonie a été abîmée, mais le Seigneur l'a portée tout au long du chemin. Et dans ses années de recherche, elle a dû faire le deuil d'une sainteté rêvée, comme nous. En fait, je pense que nous sommes arrivés à un âge où nous nous disons, on n'est pas des super-héros, on est juste nous-mêmes, ce que nous sommes, et ce que nous allons présenter nous-mêmes à Dieu. Et en cultivant ce cœur à cœur avec son bien-aimé, Léonie place d'une logique du don de soi, qui est réelle, on se donne à Dieu, mais qui se marie avec une attente de la miséricorde de Dieu. Dans la prière, Dieu nous fait don de ses grâces pour nous élever jusqu'à lui. Et je voudrais terminer avec une histoire que les novices aimaient à faire raconter à Léonie chaque année, parce qu'à la fin, elle s'effondrait en larmes. Elle est toujours hypersensible. Et donc, on savait qu'on allait la faire pleurer. Il y avait toujours des novices qui aimaient bien l'entendre raconter cette histoire et qui la voyaient pleurer, mais en fait, c'était de tendresse. Et donc, c'était la veille de la nativité et il s'agit d'un dialogue qui s'établit entre Jésus et Saint Jérôme dans la grotte de Bethléem. Et donc, Jérôme attend la naissance de Jésus et Jésus lui apparaît et lui dit, l'enfant Jésus lui dit, « Jérôme, que me donnes-tu pour mon jour de naissance ?» Jérôme, « Divin enfant, je vous donne mon cœur. » « C'est bien, mais donne-moi quelque chose de plus. » « Je vous donne mes prières, toutes mes affections. Je veux plus encore. Je vous donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. C'est trop peu. Divin enfant, je n'ai plus rien. Que voulez-vous que je vous livre de surcroît ?» Jérôme, donne-moi tes péchés. « Que voulez-vous en faire ? Donne-moi tes péchés, afin que je te les pardonne tous. Ô divin enfant, vous me faites pleurer. » Donc nous retrouvons ce que nous évoquions ce matin, à savoir que Dieu mendie tout notre être, tout. Et le premier lieu de ce don à Dieu de nous-mêmes, c'est la prière, parce que c'est le lieu d'intimité avec Dieu. Car l'amour ne se paye que par l'amour, dit Thérèse. Amen.